Alors, le 26 janvier dernier, j'ai abordé la première partie du livre La Genèse. Et aujourd'hui, nous allons prendre, comme c'est un livre assez grand, hein, avec 50 chapitres, nous allons prendre la deuxième partie de la Genèse, en gros, depuis Jacob jusqu'à Joseph. Je ne sais pas qui est-ce qui a lu le livre de la Genèse récemment. Qui est-ce qui a lu le livre de la Genèse? Ouais, quand même pas mal, là. Et là, je vous pose une question peut-être un peu gênante. Qui c'est qui n'a jamais lu le livre de la Genèse? Celui qui l'a, il n'ose pas lever la main. Donc, vous avez tous lu ce livre. En général, le premier livre d'un bouquin, on le lit. Hein, et on n'arrive peut-être pas toujours au bout du livre, mais le premier, on le lit. Donc, la Genèse, il est quand même assez crocheur, j'ai envie de dire, avec la création et tout ça, avec les récits des patriarches. Donc, voilà. Donc, on va, ce soir, ça va peut-être un peu vous remémorer, hein, ce livre, si vous l'avez longtemps plus lu. Et puis, on va en sortir quelque chose de spécifique pour nous. Donc, on ne va pas tout lire, hein, c'est quand même long. On va surtout, j'ai pris l'option de résumer un peu tout le livre en ressortant quelques éléments. D'abord, juste un verset, quelques versets qui ont attiré mon attention. Alors, ce sera peut-être des versets qui vont juste vous donner envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, je ne vais pas creuser ces versets parce que ce n'est juste pas possible au niveau timing. Mais je l'ai dit avec quelques éléments qui m'ont touché. Et nous arriverons ensuite sur la pépite pour nous, ici, LG Versois. Lutter avec Dieu, ça vous donne déjà peut-être un indice sur ce que c'est cette pépite. Alors, vous êtes prêts parce que le message est assez dense, hein, je vous avertis. Il est assez dense, donc il sera enregistré en audio. Donc, si vous pigez pas tout, ben vous pouvez toujours reprendre. Ou si vous vous endormez en cours de route, je vais essayer d'être le plus clair possible. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, on commence à la fin du chapitre 25. On parle encore de la descendance d'Ismaël. Hein, on parle de la généalogie des 12 fils d'Ismaël, les enfants que Abraham a eus avec Agar. La formation des 12 tribus ismaélites. Hein, donc c'est toutes les tribus qui peupleront l'Arabie. C'était surtout des tribus nomades. Et on apprend finalement que Ismaël, donc le frère ou le demi-frère d'Isaac, est mort à 137 ans. Et c'est finalement la fin de l'histoire d'Ismaël. On n'en parle quasiment plus dans le reste de la Bible, si ce n'est un peu plus tard, on le cite dans une généalogie. L'histoire ensuite de Jacob et Ésaü, c'est une deuxième grande partie de cette deuxième partie de la Genèse, avec tout d'abord naissance et rivalité entre les deux frères, Isaac, hein, qui fils d'Abraham, il épouse Rebecca. Rebecca est stérile, mais Dieu y fait un miracle. Elle conçoit des jumeaux qui luttent dans son sein. Et Dieu lui annonce que deux nations naîtront d'elle et que l'aîné, Ésaü, servira le cadet Jacob. Ésaü devient chasseur. Jacob est un homme tranquille, plus sédentaire que son frère. Et un premier verset que j'aimerais relever ici, il est dit que Ésaü, donc il a vendu son droit d'aînesse à Jacob en échange d'un plat de lentilles. Le dernier verset de Genèse 25-34 dit « C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. » Donc ce mépris qu'il a eu des conséquences pour la suite, hein, dans la relation avec son frère Jacob, dans la bénédiction qu'il ne va pas recevoir finalement d'Isaac. Donc il y a eu toutes des conséquences. Et je me dis aussi pour notre vie, parfois nous avons des droits, nous avons des droits qu'on peut exercer ou pas, ils sont soit écrits, soit c'est des codes de la société, qu'on peut respecter ou parfois aussi mépriser, et ça a des conséquences qu'il faut assumer. Et j'ai pensé simplement actuellement, vous savez que ma belle-maman est décédée, Heidi, et puis elle a laissé un testament derrière elle. Alors je ne vais pas vous révéler ce qu'il y a dans ce testament, mais elle a usé d'un droit. Hein, elle a usé d'un droit d'écrire un testament, il sera ouvert prochainement devant notaire, il y a toute la procédure, etc. Mais je me dis, elle a bien fait d'user ce droit. Elle a mis quelque chose en place, elle n'a pas méprisé, elle aurait pu dire « Ok, je fais rien, ils se débrouilleront après moi ». Mais on voit ici que, étant donné qu'il y a eu un mépris ici du droit d'Ésaü, ça a eu des conséquences. Et puis je pense ici aussi des conséquences, notamment dans la relation avec son frère Jacob. Et je me dis aussi, si ici, il n'y avait pas eu de testament, quelles pourraient être les difficultés relationnelles qui pourraient engendrer cette voilà, un peu négligence peut-être qu'elle aurait pu avoir, ou alors peut-être qu'elle n'aurait juste pas voulu faire ça. Difficile d'affronter peut-être aussi ça, de faire un testament, de réfléchir déjà à ce qui peut passer après sa mort. Donc voilà, il y a des droits qu'on a, qu'on peut utiliser ou pas, mais l'important, c'est si on ne les utilise pas, ça peut aussi avoir des conséquences. Une grande partie, ensuite, Isaac, il est à Guérar, c'est le chapitre 26. Il y a une famine, Isaac qui va à Guérar, donc c'est chez les Philistins. Et là, il rappelle l'alliance qu'il a fait avec Abraham, avec une promesse de bénédiction, on connaît ça. Il y a une tromperie d'Isaac qui présente Rebecca comme sa sœur. Il a peur qu'on la prenne et du coup, il fait passer sa femme pour sa sœur. Il avait peur d'Abimélec. Il y a des périodes fastes, des récoltes abondantes, de la richesse, mais aussi de la jalousie des Philistins. Conflits, disputes autour de puits entre les bergers d'Isaac et ceux de Guérar. Et là, il y a une nouvelle rencontre d'Isaac avec Dieu qui lui rappelle « L'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit « Je suis le Dieu de ton père, Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Cette bénédiction continue et elle est rappelée. Et c'est là qu'il fait une alliance avec Abimélec, donc un acte de paix pour lui et sa famille. Nous avons ensuite le mariage d'Ésaü. Il a eu plusieurs femmes, des femmes hittites, et il est dit qu'elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Je trouvais fort, ce fut un sujet d'amertume. Vous êtes allé déjà voir dans le dictionnaire ce mot amertume, c'est un terme qui est un peu bizarre, hein. C'est amer, mais ça veut dire quoi concrètement? Et le dictionnaire dit c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Waouh! Donc ils avaient ça dans le cœur quand Ésaü s'est marié avec ses femmes hittites. Donc le choix d'Ésaü de ne pas prendre des femmes du peuple dont il est issu ne laisse pas ses parents indifférents. Alors on savait la relation qu'ils ont eue, hein, les parents avec... c'est peut-être pour des raisons différentes qu'ils ont été dans l'amertume, on ne sait pas. Ou est-ce que c'était pour les mêmes raisons, le texte ne le dit pas. Et je me dis aussi, nous, je suis parent, nous sommes plusieurs parents. Hein. Quand un enfant fait des choix que nous ne comprenons pas, ici Ésaü s'est marié avec ses femmes hittites, comment sommes-nous affectés? Comment sommes-nous affectés? Est-ce qu'il y a de l'amertume, de la déception, un sentiment d'injustice, hein, je reprends ces termes qui sont derrière amertume, ou au contraire, acceptons-nous leur choix? C'est leur choix. Tout un travail qui peut aussi être fait entre ce que les parents veulent pour leurs enfants et finalement ce que les enfants choisissent. Ensuite, chapitre 27, bénédiction d'Isaac et tromperie de Jacob. Donc Isaac, il devient aveugle, il veut bénir Ésaü. Hein, puis Rebecca, elle aide Jacob à se faire passer pour Ésaü. Hein, vous connaissez cette histoire, afin d'obtenir la bénédiction de son père. Elle lui met les habits de Jacob, il couvre les parties visibles de son corps avec de la peau de chevreau, pour qu'il ait l'impression qu'il bénisse Ésaü. Donc voilà une tromperie pour que Jacob soit béni pour que Isaac soit béni par Jacob. Donc il reçoit la bénédiction promise à l'aîné, ce qui signifie aussi la richesse, la domination hein, sur son frère et aussi la poursuite de l'alliance avec Dieu. Et c'est là qu'Ésaü, furieux, il menace Jacob et Jacob doit fuir chez son oncle Laban à Haran. Et là aussi, c'est sa mère qui lui a suggéré de faire ça. Et Jacob arrive chez Laban, et en route, il a la vision de l'échelle hein, qui relie la terre au ciel, avec cette signification de l'alliance qu'il y a aussi avec Dieu. Et là, je relèverai un verset. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, mais que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Dieu est parfois aussi là. Dieu est certainement aussi parfois là où on n'y pense pas qu'il puisse être. Hein, même si aujourd'hui la présence de Dieu, elle est partout. Elle est ici, on est rassemblés. Elle est dans nos cœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on est toujours conscient que Dieu est partout où on est? Ou est-ce qu'on a l'impression qu'il est des fois là, à des endroits où je sais qu'il est là, quand on loue le Seigneur, ah, il est là, Dieu. Là, je suis sûr, on est connecté à lui. Et parfois, on est dans d'autres endroits, mais il est toujours là. Hein. Dieu, ce n'est pas « je suis là quand ça va », « je suis là quand tout est bon », mais « je suis là hein, présent en toi, surtout nous avec la Nouvelle Alliance, hein, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Et chez Laban, il tombe amoureux de Rachel, hein, il accepte de travailler 7 ans pour l'épouser, donc c'est déjà pas mal. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui on serait prêt à travailler 7 ans pour obtenir que le beau-père, si moi hein, j'étais allé chez Catherine, j'aurais dit, écoute, j'aimerais épouser ta fille Catherine, mon futur beau-père m'a dit, tu bosses d'abord 7 ans pour moi, puis après tu l'auras. Bon, c'est pas mal, hein, 7 ans. Je dis, ça va aller faire plus vite les mariages, ou pas. Et ce qui est terrible, c'est que Laban, encore trompé, il lui a donné Léa d'abord, l'aînée, parce que c'était la tradition. Je te donne, donc il lui a donné Léa en mariage. Et quand Jacob a compris ça, il a dit, ok, mais moi je veux Rachel, je suis amoureux de Rachel. Et c'est là qu'il lui a dit, bah, tu bosses encore 7 ans de plus pour avoir Rachel. Donc 14 ans pour obtenir la main de Rachel. Et c'est là que sont citées les 12 tribus d'Israël. Vous savez de combien de femmes à ces 12 tribus d'Israël sont issues? Oui, 4, c'est juste. C'est-à-dire ouais. Et les deux servantes, voilà, c'est ça, exactement. Donc il a eu avec 4 femmes, avec Léa, il a eu Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Avec Rachel, il a eu que 2 enfants, Joseph et Benjamin. Avec Bila, la servante de Rachel, il a eu Dan et Nephtali. Et avec Zilpa, la servante de Léa, il a eu Gad et Aser. Il y a des rivalités hein, entre Rachel et Léa, car le cœur de Jacob, ben, il est en premier pour Rachel. Et il arrive certainement ouais, à ne pas le dissimuler dans son comportement, et c'est aussi ressenti par ces deux femmes. Mais il reste avec ces deux femmes, et après 14 ans de service hein, chez son oncle Laban, Jacob part secrètement avec ses épouses. Nous sommes ici dans le chapitre 31, et j'aimerais citer 3 versets ici qui m'ont paru aussi importants de vous communiquer ce soir. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Donc le Dieu s'est manifesté dans sa fuite, hein, il était en fuite, qui lui a demandé de retourner dans son pays. Il a fallu 14 ans pour ce retour. On peut juste s'imaginer 14 ans. Donc Dieu a dû donner un ordre quand même assez clair, une promesse assez claire, je suis avec toi. Pas Jacob savait certainement, il n'a pas oublié hein, ce qui s'était passé il y a 14 ans en arrière. Donc pour pouvoir retourner 14 ans après chez son frère Ésaü, il fallait quand même que Dieu le travaille et qu'il soit aussi prêt à faire ce pas. Et si Dieu nous demandait parfois aussi de retourner, je me suis dit des fois on part dans des directions, et si Dieu nous demandait parfois de retourner quelque part pour retrouver un lieu hein, ou un parent ou une histoire qui s'est un peu interrompue, brutalement, et puis on s'est dit, mais il y a quelque chose d'inachevé encore, et que nous devions y retourner. Ça peut aussi être des fois ça le chemin avec Dieu, c'est pas toujours avancer, ça peut des fois aussi revenir à un endroit pour reprendre une histoire. Un autre passage, Rachel et Léa, lui, donc à Jacob, lui répondirent, avons-nous encore une part et un héritage chez notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre Père nous appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Des paroles qui traduisent ici la confiance de Rachel et Léa envers Jacob. Jacob doit aussi bien sûr prendre ses responsabilités, c'est lui qui décide de partir, mais Rachel et Léa lui font confiance. On voit une fois de plus confiance, responsabilité vont de pair. Quand Laban rattrape Jacob, hein, qu'il avait fui avec ses deux filles, Léa et Rachel, nous lisons, c'est une déclaration de Laban, « Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit, donc il a eu un rêve, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Alors c'est un peu bizarre, garde-toi de parler, mais il a quand même parlé avec lui. Hein. Mais dans le contexte de ce verset, on comprend que Dieu ne demande pas à Laban de ne pas parler avec Jacob, mais de ne pas lui faire de mal. De ne pas utiliser des paroles violentes, blessantes, mais aussi de ne pas le flatter. Je trouve intéressant, pas parler en mal ou en bien. Voilà. Et Laban respecte ce que Dieu lui a dit. Et puis, la suite dans ce texte, on voit un dialogue qu'on dirait aujourd'hui, un dialogue de non-violence. Il a parlé en jeu. Il y a un quiproquo autour de la disparition de ces téraphins, ces figurines que Rachel aurait volées, ces figurines qui représentent les dieux protecteurs. Et finalement, il y a une alliance aussi qui se conclut entre Jacob et Laban. Donc tout est bien qui finit bien. Il est dit, Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis il partit pour retourner chez lui. Donc avec ce que Dieu lui a dit, avec ça, la manière dont ils ont réglé aussi ce départ un peu, il est parti, il a fui, l'a rattrapé, ils sont finalement séparés en bons termes, on peut dire comme ça. Je vois aussi une invitation à se parler de manière non violente, sans flatterie. Vous avez déjà vu comment on parle des fois aux gens, d'abord on flatte, etc. On est un peu ce côté, je ne dis pas que c'est mauvais, mais d'être ici, il a juste dit « parle avec lui ». Pose-lui des questions, dis-lui ce que tu en penses. Donc, parler vrai, juste se dire les choses comme ça. Et quand on connaît quelqu'un, en général, on arrive aussi plus facilement à le faire. Et ce type de langage, il est particulièrement adapté dans les situations conflictuelles. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la CNV, communication non violente, qui a été développée par le psychologue américain Marshall Rosenberg, qui est utilisée dans des situations, alors des conflits dans des pays, en Afrique par exemple, quand il y a des conflits entre ethnies, des choses comme ça. Quand il faut commencer de discuter avec quelqu'un avec qui on est en conflit, il faut commencer par une communication non violente pour essayer de retrouver aussi le dialogue. Et c'est ce que Laban ici a compris et ce qui a réussi aussi avec Jacob à se réconcilier après cette fuite. Ensuite, nous avons le retour de Jacob et réconciliation avec Ésaü. Donc Jacob, il est pétri de peur devant Ésaü, vous imaginez. Il marche contre lui, on lui a dit « Ésaü marche contre toi avec toute son armée ». Donc on lui a rapporté ça, c'était de la réalité, ce n'était pas une histoire inventée. En même temps, il est reconnaissant avec Dieu qui tient ses promesses. Il met en place une stratégie, je ne sais pas si ceux qui ont le texte en tête, il envoie des équipes à l'avance comme ça, chacun a des cadeaux, puis ils se sont dit, bon, le premier donnera des cadeaux, le deuxième des cadeaux, puis quand il y aura le dernier, il sera apaisé, Ésaü sera content avec moi, il ne va plus m'en vouloir avec tout ce que j'ai fait, j'ai volé son droit d'aînesse, etc. Donc toute une stratégie dans sa tête. Et c'est là qu'il y a ce passage célèbre lorsque Jacob lutte avec Dieu. Après avoir fait traverser tout son monde, la rivière Jabbok, c'est un affluent du Jourdain qui existe apparemment toujours, c'est une rivière qui s'appelle aujourd'hui Zarka, qui existe toujours, et il ressort vivant, mais boiteux de la hanche, donc il a eu une hanche déboîtée suite à cette rencontre. Et puis après cette lutte, Jacob retrouve Ésaü, et puis il, je cite, trouve grâce aux yeux de son Seigneur, donc d'Ésaü. Puis après, il se sépare de nouveau. Ésaü voulait qu'il reste avec lui, mais il se sépare de nouveau, parce que finalement, tout ce que Jacob cherchait, c'est retrouver la paix et mettre une fin à leur conflit. Donc on reviendra sur ce passage tout à l'heure, sur cette lutte avec Dieu. C'est là que c'est cette pépite que j'aimerais vous laisser ce soir. Ensuite, Genèse 34-36, là, il y a différentes affaires familiales. Il y a d'abord un viol d'une des filles de Jacob, puis la vengeance de ses frères. Il y a le retour de Jacob à Bethel, où Dieu renouvelle son alliance, la mort de Rachel, la mort d'Isaac à 180 ans. Et il nous est aussi rapporté la descendance d'Ésaü, ou Édom, qui devient ensuite l'ancêtre des Édomites. Les chapitres 37 à 50, c'est l'histoire de Joseph. Donc c'est le deuxième grand chapitre, Joseph et ses frères. Vous savez, Joseph est le fils préféré, un peu le chouchou de Jacob, et ça suscite de la jalousie chez ses frères. En plus, il a la capacité de leur raconter des rêves, et en plus, il leur dit qu'il va régner sur eux. Donc, il y avait toute une série de choses qui pouvaient rendre quand même ses frères un peu... qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Et ça va jusqu'à ce qu'ils complotent contre lui, ils veulent le tuer. Donc il a échappé, vous connaissez l'histoire, il n'est pas mort, mais première chose, il voulait le tuer, et c'est Ruben qui s'est interposé pour l'épargner. Ils l'ont mis dans une citerne, vendue à des marchands, et qui est parti en Égypte. Et Jacob, il croyait que son fils était mort, ils ont mis une fake news pour dire, ton fils, il est mort, il a été déchiqueté par une bête sauvage. Bon, en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc on voit ici, quand il y a une relation un peu préférée d'un parent avec un enfant, ça peut provoquer des tensions au sein de la fratrie, surtout quand il y en a peut-être encore que cette personne se prend un peu des airs de supérieur ou a des capacités que les autres n'ont pas. ça peut aller jusqu'à ce qu'on veuille éliminer cette personne, donc ça peut aller loin. Joseph est en Égypte, hein, il est d'abord esclave chez Potiphar, l'officier du Pharaon, il plaît à la femme de Potiphar, hein, à tel point qu'elle veut coucher avec lui. Il lutte pour ne pas tomber dans le piège qu'elle lui tend, pour rester intègre et aussi pour rester fidèle à Dieu et à son maître Potiphar. Cette résistance, hein, il a aussi lutté ici pour ça, pour garder son intégrité, lui coûte cher, hein, puisqu'il termine en prison en raison de fausses accusations. Et puis là, en prison, ben, il avait un don, hein, Joseph, d'interpréter les rêves. Il continue. Hein, on pourrait se dire aussi, en prison, à un moment donné, je croyais que j'allais pouvoir, que Dieu allait m'utiliser avec ça. Ah, il se retrouve en prison. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il interprète les rêves du chef des boulangers, on parle aussi du panetier, du grand responsable des boissons, les chansons. Alors, vous me direz, pourquoi ils étaient en prison, ces deux? Ben, il a aussi dit qu'ils commirent une faute envers leur seigneur. Donc, il les a aussi mis en prison, les deux. Et c'est là que Joseph leur interprète leurs rêves. Ce qui est terrible, le passage suivant, il interprète ses rêves. Hein, et avant de partir, il dit au chef des boissons, là, il leur dit, mais écoute, quand tu seras sorti, tu diras au Pharaon, finalement, tu te souviendras de moi. Hein, parce que finalement, je suis là, je n'ai pas fait d'erreur. Hein, c'est par erreur que je suis ici. Tu te souviendras de moi. Et il est dit dans Genèse 40, verset 23, que le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve, et c'est là que le Pharaon fit appeler Joseph. Les chansons lui a dit, mais je connais quelqu'un à l'époque, hein, il y a 2 ans, il m'a interprété un rêve, et c'est là qu'il fait appeler Joseph. Et on sait hein, les rêves que le Pharaon a eus, les vaches maigres, les vaches grasses, il a interprété ses rêves. Et puis Joseph est devenu, sorti de prison, il est devenu le grand Joseph qu'on connaît, le gouverneur ou le vizir d'Égypte, le bras droit du Pharaon. Vous voyez un souvenir hein, lié à une promesse, oublié pendant 2 ans, ravivé par une expérience similaire du Pharaon. Et nos actions, même les plus extraordinaires, hein, ici c'était interpréter un rêve, peuvent aussi passer dans l'oubli parfois, peut-être. Mais elles peuvent aussi revenir en mémoire, parfois bien plus tard, au moment opportun, par un concours de circonstances influencé par Dieu. Dieu reste souverain dans toutes ces situations. Et j'ai pensé à ce verset, « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». On voit quand même tout s'est mis en place pour Joseph ici, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, comme il est dit dans Romains 8, verset 28. Après la famille retrouvaille avec ses frères, donc il y a une famine en Canaan, les frères de Joseph descendent en Égypte pour acheter du blé. Joseph les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Ensuite, il y a toute une stratégie, hein, Joseph jusqu'à ce qu'il puisse enfin affronter ses frères, ça allait un petit moment. D'abord, il les a accusés d'être des espions. Il a retenu Siméon en otage. Donc c'était fort, hein. Et les frères retournèrent chez leur père en lui expliquant les conditions que Joseph a fixées pour leur donner du blé, notamment que Benjamin les accompagne, alors que Jacob ne le voulait pas au départ, bien sûr. Et c'est là qu'on lit une déclaration que je trouve extraordinaire de Jacob. Leur père Israël leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme, donc à Joseph. » Un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez le double d'argent avec vous et apportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Quant à votre frère, prenez-le. Levez-vous et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre frère, votre autre frère et Benjamin avec vous. Donc, autre frère, c'était Siméon hein, qui était retenu en otage. De mon côté, si je dois être privé d'enfant, que j'en sois privé. Il a lâché là. Hein. Il s'est dit, OK, je n'ai plus rien à perdre, je fais confiance à Dieu. On voit ici Israël, un homme qui écoute, on lui a rapporté ce qui se passait, qui décide à un moment donné, qui prie et qui est prêt à accepter la volonté de Dieu. En relisant mes notes tout à l'heure, Israël, hein, bah, c'est devenu un peuple. Et nous sommes les descendants, on est l'Église, c'est un peu la suite d'Israël d'une certaine manière. Et je me dis, est-ce que l'Église est une Église qui écoute, qui décide, qui prie et qui est prête à accepter la volonté de Dieu? Ouais, c'est peut-être ça, hein, l'Église. Hein, parce que finalement, c'est Jacob, c'est une personne, mais c'est devenu le peuple d'Israël. Donc, ils reviennent donc chez Joseph avec Benjamin. Et là, Joseph met ses frères à l'épreuve en cachant cette coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Mais Judas implore Joseph de ne pas le punir. Hein, il veut tenir sa promesse envers son père, hein, lui ramener Benjamin. Et il est prêt à se sacrifier par respect pour son père. Il est prêt même à devenir l'esclave de Joseph à la place de Benjamin. Une préfiguration de Jésus, on sait que Jésus est le descendant de Judas, donc un des 12 fils de Jacob, qui s'est sacrifié pour nous par amour pour son père, et par amour pour nous, bien sûr. Ensuite, Joseph révèle son identité, ce qui soulève beaucoup d'émotions. Il y a deux passages ici que je retiens, versets 2 et 3 du chapitre 45. « Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » « Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph, il craque ici, il n'en peut plus de rester finalement inconnu pour ses frères et il se fait connaître. Une séquence forte d'émotions. D'ailleurs, Joseph a déjà pleuré dans les passages précédents et il les fait aussi dans le passage qui suit, au verset 14 et 15. « Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. » Benjamin pleura aussi à son cou. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères discutèrent avec lui. Hein, le grand Joseph, bras droit du Pharaon, je ne sais pas à l'époque comment on accueillait les émotions. Est-ce qu'on osait pleurer? En tout cas, aujourd'hui, des fois, on a l'impression, on n'ose pas, c'est gênant, hein, c'est des fois un peu personnel aussi. Mais Joseph accueille ses émotions, des pleurs. Alors, je me suis dit, c'est quoi comme pleurs? Je pense que c'était un peu un mélange. Il y a pas mal de choses dans ces pleurs, certainement heureux, mais peut-être encore des pleurs un peu de colère quand même. Finalement, il était là, mais tout ce qu'il a vu, tout ce qu'ils ont fait, ses frères, quand même, c'était pas rien. Peut-être des pleurs de tristesse aussi. Il est resté pleinement humain. Et puis, le dernier passage, versets 7 et 8, « Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. » Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Donc Joseph prend du recul, a fait un chemin intérieur pour comprendre les voies de Dieu. Dieu agit au travers de nous, parfois aussi au travers de chemins tortueux pour nous faire vivre, pour nous protéger d'un malheur parfois aussi, pour pourvoir à nos besoins. La dernière partie, c'est l'installation d'Israël en Égypte. Et puis Jacob et toute sa famille s'installent à Goshen. Et puis là, on lit dans les chapitres 47, versets 7 à 10, « Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu ?» Jacob répondit au Pharaon, « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise. Elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. J'ai été surpris comme Joseph a fait un bilan quand même assez négatif de sa vie. Hein. Ma vie était courte et mauvaise, hein. C'est une petite phrase. Donc il aurait aimé vivre plus longtemps. Il n'était pas très content de lui. Mais malgré cela, il bénit celui qui l'accueille comme ici le Pharaon. Et savons-nous aussi bénir, hein, souhaiter le bien aux autres, même si ce qu'on a vécu n'est pas toujours ce qu'on espérait, même si des fois on est un peu tourné sur soi-même, et bénir les autres, c'est souhaiter que l'autre ait du bien. Moi, ben voilà, j'espère aussi être béni, mais au-delà de ça, de bénir l'autre, de souhaiter la bénédiction et la bénédiction du Seigneur en particulier. Jacob bénit ensuite Éphraïm et Manassé, hein, les fils de Joseph. Et c'est là que Joseph intervient auprès de son père pour qu'il fasse le bon geste, qu'il mette sa main sur l'aîné, Manassé. Mais Jacob refuse. Et là, il est très lucide et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. » Le respect de règles ici, que la bénédiction soit en premier sur l'aîné, peut parfois aller à l'encontre de ce que Dieu nous dit. Et de ce que Dieu veut aussi, ici que la bénédiction, il voulait que cette bénédiction transgénérationnel soit sur le cadet. Et en même temps, je comprends ce geste de Jacob aussi comme une répétition de ce qu'il a vécu lui-même. Son père a aussi béni le cadet Jacob et non lui-même et non Ésaü. Et je me dis, c'est pas souvenu de ça. C'est comme s'il répétait comme ça une chose qu'il a vécue lui-même, avec tout ce qu'il a pu aussi, les conséquences qu'il a eues. Et voilà, il a continué, je pense, à écouter Dieu aussi, à être convaincu de ça. Et c'était quelque chose qui l'a amené à bénir le cadet et pas bénir l'aîné. Et avant de mourir, Jacob bénit chacun de ses fils. Hein, prophétiquement, il leur donne une prophétie à chacun. Et pour Judas, dont l'ancêtre du Messie, la prophétie est magnifique. Je ne vais pas la lire complètement, juste un extrait, c'est dans les versets 8 à 12. « Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever ?» Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc le Shiloh, c'est un peu un mot incertain la signification, ça peut être l'envoyé, le pacifique, ou encore celui à qui il appartient, mais il est généralement compris comme le renvoyant au Messie. La mort de Jacob déclenche un deuil important pour Joseph et ses frères, mais aussi pour les Égyptiens. Cette mort amène aussi de la crainte chez les frères de Joseph, hein, qui rappellent à Joseph l'ordre de leur père de pardonner leurs péchés. Et puis à ce message, Joseph pleure et ses frères se jettent à ses pieds en disant « Nous sommes tes serviteurs ». Je pense que c'est vraiment l'accomplissement. Vous imaginez, il a eu ce rêve hein, quand il était tout jeune et là, ses frères se prosternent devant lui. Je pense que c'est ça, hein, une des raisons en tout cas pour lesquelles dans ce passage, il est dit qu'il pleura. Et c'est là que ça se termine par ce passage bien connu. Joseph leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Donc de nouveau, Joseph voit la main de Dieu dans tout ce qui s'est passé. Et avec cette réponse, il s'en remet à Dieu quant à son pardon. Mais lui ne va pas se venger et faire du mal à ses frères. Au contraire, il va les traiter avec le plus grand soin en pourvoyant leurs besoins. C'est ce qui s'appelle rendre le bien pour le mal. J'ai été surpris, Joseph, on l'entend nulle part, en tout cas ici, qui dit « Je vous pardonne ». Je pense dans son cœur, il leur a pardonné. Le comportement qu'il a eu est un signe, en tout cas qu'il ne leur en voulait plus. Mais il dit, je m'en remets à Dieu. Finalement, ce que vous avez fait là, vous m'avez fait un sacré sale coup quand même, je m'en remets à Dieu. C'est lui finalement qui s'occupe de ça. Ils ont voulu en plus lui dire, tu dois demander pardon, Dieu, le Père t'a dit de nous demander pardon. Donc une espèce de triangulation. Il semble qu'il n'est pas entré dans ça. Donc il a pas entendu non plus les frères lui demander pardon directement. Mais les conséquences dans son cœur, il n'a pas gardé de la rancune pour eux, même si ce qu'ils ont fait a laissé une trace aussi profonde dans son cœur. Dans les derniers versets de Genèse, nous lisons que Joseph meurt à 110 ans et est embaumé en Égypte. Et puis avant cela, il fait la promesse à ses frères que Dieu interviendra pour qu'ils remontent dans leur pays. Donc il leur refait de nouveau une promesse. Où c'est aussi une prophétie, hein, celui que Dieu a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. De plus, il fait jurer à ses frères, il leur demande quelque chose, « Vous ferez remonter mes ossements dans ce pays quand Dieu interviendra. » Et on sait que ça s'est fait plus tard aussi. Il n'a pas voulu rester en Égypte. Voilà un survol rapide. J'espère que vous êtes toujours avec moi pour la pépite. C'est un peu la dernière partie, le point particulier. Et ici, j'aimerais relire avec vous ce passage où Jacob a lutté avec Dieu. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît ? Voilà. Vous pouvez aussi suivre avec moi Genèse 32, les versets 25 à 33. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Et ce mot Israël veut dire littéralement celui qui lutte, ou on peut aussi traduire parfois qui persévère avec Dieu, ou Dieu a lutté ou Dieu a persévéré. C'est de part et d'autre. Il y a un mystère dans ce texte, moi je ne vois pas très clairement, est-ce que c'était qui a lutté avec Jacob ? Je pense que c'est un peu un mystère. Est-ce que c'était un homme ? Est-ce que c'était Dieu ? Est-ce que c'était un ange ? Quand on regarde des images, on voit souvent un ange. Mais en tout cas, dans la traduction ici, on ne parle pas d'ange. Donc au début, on parle d'un homme et on peut s'imaginer que Jacob a réellement pensé qu'il luttait. Vous voyez, il était là seul. En tout cas, quelqu'un le cogne ou l'affronte, et il pensait réellement que c'était un homme. Et à la fin, il déclare « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Il pensait certainement que c'est impossible de voir Dieu. Et là, après cette lutte, il déclare qu'il l'a vu. Et c'est pour ça qu'il donne le nom à ce lieu Péniel, hein, qui veut dire « face de Dieu » ou « visage de Dieu ». Revenons rapidement à la chronologie des événements pour qu'il passe d'un homme, voilà, il imagine que c'est un homme, jusqu'à ce qu'il fasse cette déclaration. Donc une lutte commence entre Jacob, seul, et un homme. Qui a initié la lutte ? J'ai envie de dire que c'est plutôt l'homme, mais ce n'est pas dit clairement. L'homme, il ne gagne pas. Jacob ne se laisse pas vaincre, il est dit. Et c'est pour cela qu'il lui inflige un coup, le frappe, ce qui va le handicaper. Après cela, l'homme demande de partir, mais Jacob ne veut pas qu'il parte avant de l'avoir béni. Donc l'homme était prêt à arrêter le combat, là, et repartir. Mais il dit « reste ». Et c'est là que l'homme lui demande son nom, et il répond « Jacob », pour lui annoncer ensuite que ce sera Israël, celui qui a lutté avec Dieu, avec des hommes, et qui est sorti vainqueur. Et Jacob lui demande ensuite son nom, et l'homme lui répond par une question « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et Jacob ne lui répond pas. Puis l'homme le bénit. Donc voilà tout le cheminement et aussi le temps qu'il a fallu pour que Jacob puisse arriver à la conclusion qu'il a vu Dieu alors que Dieu ne lui avait pas dévoilé son identité non plus. Et nous, quelles sont nos luttes ? Comment les menons-nous et pour aboutir à quoi ? Comme Jacob, nous avons certainement toutes et tous des luttes personnelles où nous nous retrouvons seuls face à nous-mêmes. Par rapport à ça. Ça peut être des relations brisées, comme ici entre Jacob et Ésaü, ça peut être des circonstances de vie où on lutte pour la santé, pour avoir une bonne santé. Ça peut être des coups durs, des fois, hein, des coups durs qui nous arrivent dans la vie. Ça peut être des fausses croyances, des luttes pour résister à des tentations de péché, hein, comme Joseph avec la femme de Potiphar. Il a aussi dû lutter ici pour résister à cette tentation. De simples choses du quotidien qu'on n'accepte pas. C'est parfois ça aussi. Moi, j'ai des fois tendance, des petites choses comme ça que je n'accepte pas, et puis je lutte contre ça. À un moment donné, il faut les accepter, les situations. Il y a comme une lutte interne, des fois, pour arriver aussi à accepter des situations. Donc, je résumerai dans ce contexte-là, on pourrait résumer tout ce qui nous freine, nous arrête sur le chemin de la vie et qui peut finalement engendrer une forme de lutte, de résistance en nous. Et parfois, on ne sait pas pourquoi ou contre qui on lutte, et on cherche à le savoir. Comme Jacob, il a dit « Mais qui es-tu ?» Il n'a pas reçu de réponse. On n'obtient pas de réponse toujours. Pourquoi on lutte contre quelque chose ? Parfois on en reçoit, parfois on ne reçoit pas. Et ces luttes peuvent toucher ceux qui nous entourent, hein, le conjoint, la famille élargie, l'Église. Je rappelle ici que Jacob était en route, hein, donc ce n'était pas une lutte où il est parti seul quelque part, laisser tous ces gens à la maison. Ils étaient en chemin pour partir de chez Laban pour retourner à Canaan. Donc il était avec lui, ses femmes, ses matériels, il a tout pris avec lui. Et là, il était, j'ai envie de dire, sur le une pause dans le voyage, hein, comme sur un reste-route, on s'arrête des fois, et il s'est retrouvé seul. Donc ces luttes personnelles, que finalement, le but du voyage pour lui, c'était de retourner dans son pays, hein, où il devra aussi après affronter Ésaü. Et comment les menons-nous? À travers l'exemple Jacob, nous sommes invités à mener ces luttes avec Dieu, ce qui passe parfois par un sentiment de solitude. Jacob, il resta seul, ou alors un besoin de se retrouver seul. J'ai plutôt l'impression que c'était ça ici. Il a dit aux anges, continuez déjà, laissez-moi un moment seul. Et c'est dans ce temps de face à face avec nous-mêmes, devant Dieu, que nous découvrons qui nous sommes et qui est Dieu. Pour obtenir quoi? Il a découvert Dieu. Pour découvrir Dieu dans nos luttes et à poursuivre le chemin, à persévérer vers le but que nous nous sommes fixés. Ici, pour Jacob, c'est d'aller réconcilier avec ses frères. Jacob a fixé un but, hein, il avait décidé de repartir, retourner vers Ésaü. Dieu l'a préparé, Dieu l'a transformé pour atteindre ce but et cela a abouti à un résultat, je ne l'ai pas beaucoup dit, mais un résultat assez improbable. Ésaü ne s'est pas vengé. Il a accepté la main tendue de son frère, Jacob, pour se réconcilier avec lui. Et Ésaü, au départ, il avait plein de schémas, plein de films. Il s'imaginait, mais ça va juste, ça sera horrible, cette rencontre. Et Dieu l'a préparé, a préparé son cœur, et j'ai envie de dire, a préparé le cœur d'Ésaü, pour finalement arriver à cette réconciliation avec lui. J'en arriverai à la conclusion, tu peux mettre la slide suivante. On a des luttes ou des combats, et c'est normal. Et tant qu'on vivra, j'ai envie de dire, on aura à lutter. Mais à travers ce texte, nous sommes invités à sortir de nos luttes parfois stériles. Ce mot stérile, même du très fort, des fois on fait des luttes, on se bat, quoi. Mais on se bat pour pourquoi pour, est-ce qu'on fait juste se battre, voilà, contre quelque chose qui ne va pas, etc. Mais c'est pour entrer dans les luttes qui nous touchent profondément, nous marquent, mais toujours dans le but, et je crois que c'est le but de Dieu, de nous faire avancer, de nous faire avancer. Et ça a permis à Jacob ici d'affronter Ésaü. C'est au contact de Dieu, aussi de sa parole, mais aussi de nos incertitudes quant à voir et à comprendre Dieu derrière ce qu'on vit, qu'on peut aussi mener les luttes qui nous font grandir pour être transformés, devenir des disciples personnels, mais aussi une communauté selon le cœur de Dieu. Alors on a vu ici, il n'y avait pas d'armes, en tout cas on ne parle pas d'armes. S'il a été blessé, c'est juste qu'il a reçu un coup. Ce n'est pas une lutte avec des armes, mais une lutte pour avancer dans la vie, pour apaiser nos relations, pour être chacune et chacun disciple de Christ et aussi marcher ensemble derrière lui. Et à la suite de Jacob, qui est devenu Israël, Jésus a, et je cite ici là un des passages, lutté avec Dieu et avec des hommes, et il a été vainqueur. C'est la croix. Ce qui nous permet aujourd'hui, comme Jacob, de voir Dieu face à face et d'être, comme il l'a dit, secouru ou sauvé dans nos combats quotidiens. Donc on voit Dieu à travers Jésus. Et c'est comme ça qu'on peut dire, nous voyons Dieu face à face. J'aime bien cette image de face à face. Pour moi, quand tu dis à quelqu'un, j'ai parlé face à face avec lui, ça vous donne quoi comme... Même hauteur. Même hauteur. Et je pense par Jésus, alors Dieu est tout-puissant, hein, on se prosterne devant lui, il est grand, nous on n'est rien à côté. Mais ici, à travers Jésus, on voit Dieu face à face. Jacob n'est pas sorti indemne de cette lutte avec Dieu. Hein, c'est peut-être encore ça, il dit, mais pourquoi il a eu cet ange déboîté? Il est même sorti avec un handicap, mais sa force intérieure a été décuplée au contact de son Dieu, le Dieu tout-puissant. Et je pense que c'est ce qu'il avait besoin pour retrouver la force, pour se relever, l'espérance que ça va marcher avec son frère. Il a pu repartir avec toute sa famille et ses biens jusqu'au bout de son chemin de retour vers son pays. Le pays promis, mais avec un handicap en plus. Vous avez vu le film Un petit truc en plus? Qui c'est qui a vu ce film? Vous l'avez vu, hein? Voilà, juste pour dire, c'est un film avec des handicapés. Et puis, on ne dit pas qu'ils ont un truc en moins. ils ont un petit truc en plus. Et peut-être c'est des fois ça aussi avec Dieu. On a un peu nos handicaps, on a un peu nos faiblesses, on a reçu un coup quand on était dans notre, dans notre jeunesse, on a reçu un coup qui nous fait mal encore aujourd'hui. C'est un peu notre handicap, mais on est avec Dieu. Et ce handicap, ce n'est pas un moins, mais c'est un plus pour découvrir Dieu et pour avancer. Donc lutter avec Dieu prend plusieurs dimensions, et c'est un peu la pépite que j'aimerais vous laisser ce soir. Ça peut être une lutte contre lui, hein, vraiment aller vers Dieu pour tout ce qui nous bloque, ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous fait mal, puis demander, comme Jacob l'a fait, demander et accueillir sa bénédiction. Je ne veux pas que tu partes avant que tu m'aies béni. Donc, pas aller juste vers Dieu, revendicateur, « je ne veux pas, ça ne va pas », etc. Mais aller vers Dieu, lui dire, et après, demande-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et ça peut être une lutte avec lui. Hein. Je ne sais pas trop comment mettre le titre. Lutter contre Dieu, ça fait un petit peu... Mais lutter avec Dieu, donc ça peut être contre lui, vraiment. On n'est pas content avec lui. Mais ça peut surtout aussi être lutter avec lui contre tout ce qui nous freine ou nous arrête. Il est à nos côtés dans ces combats pour reprendre la route. Et le troisième point, et c'est ce qu'ils n'avaient pas encore à l'époque d'Abraham ou à l'époque de Jacob, c'est de proclamer sa victoire en Jésus quand on comprend aussi que la lutte a une dimension spirituelle qui nous empêche d'avancer. Et puis recevoir aussi cette liberté. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais vous laisser sur ce sujet. Alors, j'ai fait un petit montage photo avec trois photos. Ben, je vais vous les montrer à l'écran. Tu peux passer à la prochaine ? Voilà. Quand j'ai pensé à la lutte, j'ai tout de suite pensé à la lutte suisse. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça me fait penser à ça. Donc, la lutte avec Dieu, c'est un combat réel. Ce n'est pas juste un combat imaginaire. Deuxième image, c'est la croix. Une victoire acquise précédée d'un combat que Jésus a mené avant nous. Et la troisième image, c'est une marche personnelle vers un but commun. Donc, on est en route. Ces luttes sont là personnellement, mais aussi dans un but commun, en nous soutenant, en nous aidant aussi pour pouvoir avancer. Le but commun, vous le savez, c'est de rencontrer Dieu, c'est d'avoir la vie éternelle, d'un jour être... retrouver l'état, j'ai envie de dire, et l'état de départ, qu'on était avec Dieu dans sa présence, sans lutte, sans combat. C'est ça le but commun. Voilà, donc j'ai quelques exemplaires de ce montage photo que je laisse ici dessus. Alors, j'ai juste quelques-uns, je vous l'enverrai aussi après le culte par WhatsApp sur le groupe info, comme ça vous pourrez aussi l'avoir de manière électronique. Et j'aimerais encore terminer. Je voulais faire des petits groupes, mais le temps est avancé. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'il y a un chant encore, c'est juste hein? OK. Alors, on va prendre pour encore un chant. Les questions, ben, on peut les mettre simplement et vous pourrez les lire pour vous. Le PowerPoint, il est aussi annexé toujours à l'audio qui est sur le site. Donc, où et comment est-ce que je vois des Péniel, visage de Dieu dans mes luttes? Quand je vois une situation, comment je vois, j'ai envie de dire en filigrane, où est-ce que je vois Dieu derrière ça? Et puis, deuxième question, avez-vous déjà lutté avec Dieu? Une grande question, de quelle manière et avec quelles conséquences? Voilà. Et je m'arrêterai là et merci encore pour le groupe pour ce dernier chant. Amen.